Paru aux éditions Ilaise, le livre « Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte, histoire des conserveries » sera présenté le mercredi 8 juillet et le mardi 11 août à 18h30 au pôle culturel du Petit Chiron. Pascal Cariou, autrice du livre, bonjour.
Bonjour.
Benoît Gabory, éditeur du livre, bonjour.
Bonjour Roland.
Ce récit, Pascal, est-ce l'histoire des conserveries Ilaise du début à la fermeture ?
Alors effectivement, j'ai essayé de retracer l'histoire des conserveries de l'île-dieu, donc depuis le début au milieu du 19e siècle et jusque dans les années 90.
Tu as retranscrit des témoignages de femmes qui ont travaillé dans les usines, non ?
Alors non, j'ai écouté des témoignages de femmes qui ont travaillé dans les usines, parce qu'en fait, quand on parle avec les personnes âgées, et surtout quand moi j'ai commencé à travailler au service patrimoine, maintenant il y a une vingtaine d'années, il y avait encore beaucoup, beaucoup de femmes qui étaient passées par les usines.
Si donc, tu veux les nommer, je t'en prie. Hein.
Alors, je peux en nommer quelques-unes, mais j'ai peur d'en oublier aussi et ça me gênerait. Mais en tout cas, je pense à Gilberte, je pense à Marie-Jo, je pense aussi à Marie-Thérèse. Et puis bien d'autres, plein d'autres. Une autre qu'on appelait Tata, qui devait s'appeler Augusta, je crois. En tout cas, énormément de femmes qui, bon, aujourd'hui, pour certaines, ne sont plus avec nous, mais qui m'ont confié leurs souvenirs. Et en fait, au fil de leurs souvenirs de femmes, bah, les usines prenaient une grosse place, en fait.
Gilberte, voilà. T'as raconté quoi comme souvenir de son travail ?
Alors souvent, ce qu'elle évoquait, c'était surtout la camaraderie, en fait, entre elles, et comment elles s'étaient fait des copines à l'usine, et dont certaines étaient restées des copines pour la vie.
Le travail, pas simple pour ces femmes.
Alors effectivement, elles évoquaient aussi la difficulté du boulot, mais c'est quand même une constante que j'ai retrouvée assez souvent chez les femmes de l'île-dieu que j'ai écoutées. Beaucoup ont eu des vies difficiles, parfois douloureuses. Et en fait, il reste à la fin bah, les bons souvenirs et elles sont assez rayonnantes. Moi, c'est toujours ce qui m'a fascinée.
Durant leur travail, elles ripounaient, elles chantaient quoi ?
Alors par exemple, oui, alors le chant, bah oui. Alors le chant, bah, c'est quelque chose de gai. Elles chantaient des ritournelles, effectivement, et puis des chants à ripouner comme on fait à l'île-dieu. Mais en fait, le chant, il servait à tenir la cadence et à ne pas s'endormir quand les journées étaient trop longues. Donc, elles en gardent le bon souvenir d'avoir chanté ensemble, ce qui est important. Mais ce n'était pas de la chorale. Hein.
Et elles allaient au travail à pied, non ?
Alors, beaucoup. Hein, parce que, bon, notamment quand les usines ouvrent à l'île-dieu, donc milieu du 19e, il y a très peu de vélos encore sur l'île. Et puis, les gens ne sont pas riches. Donc, effectivement, de tous les villages, les femmes convergent à pied. En général, par groupe. Hein, là encore, parce que... Bah, en général, quand on est d'un village, on est d'une usine et on fait la route ensemble.
Par exemple, le village de la Meule ?
Alors, par exemple, bah, la Meule, je ne sais pas, mais je pense que c'était pas mal Bouvet. Mais par exemple, le quartier des Bossis allait beaucoup chez Amieux.
Comment ça s'explique ?
Bah, parce que, en fait, le recrutement se faisait un peu par le bouche à oreille. Et donc, les gérants d'usines bah, incitaient les femmes à encourager les autres femmes de leur famille ou leurs copines à venir travailler dans leur usine.
Dans ces usines, est-ce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui travaillaient ou c'était exclusivement des femmes ?
Alors, ce n'est pas exclusivement féminin, c'est majoritairement féminin.
C'est pour ça que je te pose la question.
Mais il y a toujours dans chaque usine entre 10 et 15 hommes qui vont être utilisés, enfin employés pour notamment la coupe. Alors surtout quand les usines vont commencer à travailler le thon, mais c'est très tôt à l'île-dieu, puisque en fait quand les usines s'implantent, on pêche déjà le thon à l'île-dieu, donc qui est un gros poisson, donc pas facile à couper. Donc là on va utiliser des hommes, on va utiliser des hommes autour des chaudières pour la partie technique aussi. Et puis au début de l'installation des usines, eh bien il y a des ouvriers ferblantiers. Donc là davantage, parce que les usines sont fabriquées et soudées sur place.
Tout se faisait à la main pour ce travail des femmes ?
Alors,
en grande majorité ?
Sur toute la première partie des conserveries, bah oui, mais c'est évident puisque les usines sont très peu mécanisées. Il n'y a pas l'électricité sur l'île, il n'y a pas l'eau courante non plus. Donc ce sont des usines où majoritairement, évidemment, le travail il est fait à la main.
Il y avait combien de conserveries en activité sur l'île-dieu ?
Alors, au départ, donc fin 19e, on en a trois. Amieux, Bouvet, Flons, Sopiquet, donc qui sont des grands conserveurs nantais. Hein. Et puis, 1912, arrive Béziers, qui lui est un industriel finistérien, qui va s'installer en face de la gare, enfin de l'actuelle gare, parce qu'à l'époque, elle n'était pas là. Hein. Mais c'est pour que les gens puissent le situer, parce qu'aujourd'hui, ça ne ressemble pas tellement à une usine, mais c'était une usine. Et puis, le dernier à s'installer, donc, c'est Paulet, qui est un industriel finistérien aussi, qui a monté la marque Petit Navire, qui est une marque bien connue encore.
Encore aujourd'hui.
Donc, en fait, en simultané, il y a 5 usines, mais 5 usines sur 12-13 ans, en fait. Le gros des usines, c'est quand même les 3 industriels finistériens qui sont là dès la fin du 19e.
Transformation de thon et de sardines ou autre poisson ?
Alors, principalement thon et sardines. Enfin, d'abord, principalement sardines. Très vite, le thon, pour certaines en tout cas. Et puis, alors, ponctuellement, quand il y avait de gros agrivages, du maquereau au printemps, pour allonger un peu la saison. Mais c'est assez ponctuel.
L'histoire de ces conserveries fait partie intégrante du patrimoine de l'Île-Dieu et de l'histoire.
Ben, il me semble, et puis c'est surtout l'histoire des femmes.
Il reste quelques vestiges tout de même sur l'Île-Dieu.
Alors, bah, il reste quand même l'aspect qu'on ne peut pas rater, hein, parce qu'on descend du bateau, on voit la cheminée, même si elle a été tronquée, elle est moins haute qu'elle était. Après, il reste donc Béziers, qui a été transformé en colonie de vacances donc au XXe siècle. Et puis, si on regarde bien quand on va au Super U, il y a encore des vestiges sur la droite. On voit encore les arcatures donc en briques. Puisque là était l'usine Amieux. L'usine Paulet, elle a été entièrement démontée, donc il n'en reste rien.
Pascal, la dernière conserverie a fermé quand sur l'Île-Dieu ?
Mais la dernière conserverie, alors là pour le coup, elle concerne encore beaucoup de femmes de l'île quand même, puisque il y a eu l'aventure de l'aspect. Hein. En 75, Sopiquet se désengage donc de la dernière conserverie insulaire et elle est reprise par un collectif d'Ilet et de résidents secondaires aussi qui ont aussi mis des parts dans cette société. Et puis ce sera donc la dernière conserverie insulaire qui est l'aspect et qui va lancer en fait des nouveaux produits et qu'on retrouve aujourd'hui encore, puisqu'on retrouve, bien sûr c'est plus l'aspect qui les fait, mais si on va aux saveurs Ilaise par exemple ou dans la nouvelle conserverie, on a des pâtés de thon, des pâtés de sardines, des rillettes. De ça c'est vraiment l'aspect qui a développé ces produits-là.
C'est vraiment typique de l'Île-Dieu ces produits.
Ben oui, c'était des produits qu'on faisait dans les familles. Hein.
Dans ce livre, est-ce qu'on retrouve des illustrations et des photos également ?
Alors beaucoup, par contre la plupart des photos des usinières ne sont pas des photos prises dans les usines de l'Île-Dieu. Parce qu'en fait, sur cette histoire des usinières, il y a un gros, gros déficit d'image. Il y a eu beaucoup de peintres qui ont peint le port, qui ont peint l'Île-Dieu, qui ont peint les bateaux. Mais les usines et les usinières, non. Et les photographes qui sont venus faire les premières cartes postales, donc début, fin 19e, début 20e, c'est pareil, il y a 2-3 clichés très connus, et puis c'est tout. Donc il a fallu, et là Benoît peut en parler parce que c'est lui qui a fait le boulot, aller chercher dans des fonds bretons, où il y avait les mêmes usines, hein. Il a pris des photos de chez Amieux, de chez Sopiquet, voilà. Mais ce ne sont pas des ouvrières ilaises.
Benoît, simple ou compliqué ce travail de recherche, de photos, d'illustrations pour ce livre de Pascal ?
Alors ça demandait beaucoup de temps, parce qu'il faut trouver des photos, et surtout, il faut trouver les droits qui vont avec. On n'a pas le droit de publier n'importe quoi comme ça. Alors effectivement, le grand soulagement, c'est quand j'ai été trouver ce musée de la carte postale de la mairie de Beau, qui est une petite ville en Bretagne, qui avait de grosses archives et qui les vendait pour des prix relativement raisonnables, qui nous a permis de pas mal compléter l'ouvrage.
Pascal, ce livre est sorti l'année dernière, t'en parles toujours avec passion.
Ben oui.
De ces histoires.
Alors après, quelque part, c'est en tant qu'insulaire, c'est aussi l'histoire de mes grands-mères, de mes arrière-grands-mères. Donc oui, c'est une histoire qui me touche.
Ces témoignages de ces différentes femmes sont à retrouver dans ce livre.
Alors, pas de témoignages directs. On a mis quelques phrases tirées des entretiens. Mais je me suis surtout appuyée sur des archives pour écrire une histoire un peu économique, je dirais, de cette aventure-là pour l'Île-Dieu, puisqu'en fait, L'histoire des usines à l'Île-Dieu, bah, c'est la révolution industrielle vue depuis l'Île-Dieu. Donc ça me paraissait assez intéressant. Et en plus, aux archives municipales, aux archives départementales, mais également aux archives de Rochefort qui ont un gros fonds d'archives maritimes, dont le fonds du port de l'Île-Dieu, il y a énormément de documents, quoi. Donc j'ai envie de dire, là aussi, ça a été du temps, ça a été de la recherche, mais il y avait vraiment matière à raconter cette histoire et à pas raconter n'importe quoi.
Est-ce que tu pourrais faire un deuxième tome?
Alors, j'en ai pas envie du tout.
Ouais.
Je pense que d'autres peuvent s'emparer de cette histoire et notamment peut-être aller interviewer celles qui sont passées dans les dernières usines de l'Île-Dieu. C'est encore une autre histoire. Moi, je l'ai évoquée comme la dernière lutte parce que je trouvais que c'était intéressant. Mais je suis sûre qu'il y a encore des femmes aujourd'hui à l'Île-Dieu qui ont énormément de choses à raconter.
On pourra discuter de tout ça avec toi, Pascal, le mercredi 8 juillet ou bien le mardi 11 août à 18h30 au pôle culturel du Chiron.
Voilà, et moi j'invite les gens qui ont envie justement de poser des questions à venir, parce que ce qu'on veut faire avec Benoît, c'est quelque chose d'assez ouvert. Je ne vais pas ramener ma science.
Benoît, ce livre est en vente où sur l'Île-Dieu?
Oh, il est en vente presque partout. Si je pars du Norrois vers l'Est, on commence par la fabrique, on passe au magasin de jouets chez les enfants, le musée de la pêche qui le vend, parce que ça les intéresse directement. Après, on arrive à l'office du tourisme, la maison de la presse, évidemment, la boutique de la conserverie de l'Île-Dieu en vend, et on finit en allant chez Tintin, à l'abri des coups de mer, au bourg. Et également, à partir du 15 juillet, tous les mercredis, je serai sur le marché du port pour vendre les livres.
Quand l'Île-Dieu mettait la mer en boîte, histoire des conserveries. Pascal Cariou, autrice du livre, merci beaucoup.
Merci Roland.
Benoît Gabory, éditeur du livre, merci beaucoup également.
Merci Roland et bonne journée.